VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 7 avril 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Tout d'abord les titres. Au Gabon, le Parlement vote pour la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans et le scrutin présidentiel de 2 à 1 tour. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz plaide non coupable des faits présumés d'enrichissement illicite. L'insécurité au Sahel expose près d'un million d'enfants à une malnutrition aiguë au Niger, au Burkina Faso et au Mali, avertit l'UNICEF. Plus de 30 morts dans de nouvelles attaques des ADF en Ituri, dans le nord-est de la RDC, annonce la MONUSCO. Frappes israéliennes à Gaza et au Liban après des tirs de roquettes contre son territoire. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Gabon, l'Assemblée nationale a voté hier une révision de la Constitution réduisant de 7 à 5 ans le mandat du président de la République et le scrutin de 2 à 1 seul tour à moins de 5 mois des présidentielles et législatives. Jacques Aristide.
Ces changements, en particulier le scrutin à un tour, ont été très critiqués par une partie de l'opposition comme moyen de faciliter la réélection potentiellement à une majorité relative du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, qui dirige le pays depuis plus de 13 ans. Le projet de révision de la Constitution a été adopté par 86% des suffrages exprimés, largement au-dessus de la majorité qualifiée requise des deux tiers, a déclaré Faustin Boukoubi, le président du Parlement. Le chef du gouvernement s'est félicité du vote. Pour Alain-Claude Bilibinzé, c'est le résultat d'un consensus issu d'une concertation politique de 10 jours en février dernier entre la majorité et l'opposition. Ce dialogue avait cependant été boudé par d'importants dirigeants de l'opposition et de leur parti. La révision instaure notamment l'alignement de tous les mandats politiques à 5 ans, la non-limitation de tous les mandats politiques et le retour à un scrutin à un tour pour toutes les élections, le tout à moins de 5 mois des élections présidentielles, législatives et locales, dont la date précise n'a pas encore été donnée.
Le nouveau chef militaire du Burkina Faso a promis hier d'intensifier ce qu'il a appelé une offensive dynamique contre les djihadistes après une série d'attaques depuis le début de l'année. Mohamed Houmfa.
L'offensive en cours depuis quelques semaines sera intensifiée pour contraindre les groupes armés à déposer les armes, a déclaré hier le colonel Célestin Saint-Pourré à l'issue d'une rencontre de passation de pouvoir après sa nomination vendredi. Certaines opérations seront menées en coordination avec les armées des pays voisins, a-t-il ajouté. Saint-Pourré, âgé d'une 50aine d'années, a été formé à la prestigieuse Académie militaire française de Saint-Cyr. Il remplace le colonel David Cabré en poste depuis l'an dernier. Les frustrations au sein de l'armée ont conduit à 2 coups d'État l'année dernière. L'actuel chef de la junte, le capitaine Ibrahim Traoré, a promis de récupérer les territoires contrôlés par des djihadistes. Ces groupes ont mené une succession de raids et d'embuscades depuis le début de l'année, infligeant un lourd tribut aux civils et aux convois escortés par l'armée. L'armée a récemment acquis des drones et diffuse régulièrement des vidéos de frappes sur de présumés terroristes.
Près d'un million d'enfants de moins de 5 ans seront exposés cette année à une malnutrition aiguë sévère au Niger, au Burkina et au Mali, a mis en garde l'UNICEF ce vendredi dans un communiqué. L'insécurité et les conflits croissants signifient que la vulnérabilité augmente dans la région et qu'il est de plus en plus difficile d'aider les communautés dans les zones isolées confrontées aux attaques djihadistes, a déclaré la directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Marie-Pierre Poirier, citait dans un communiqué « L'augmentation de l'insécurité alimentaire et des prix des denrées alimentaires affecte également la qualité de l'alimentation des jeunes enfants du Sahel. » L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a plaidé hier non coupable des faits présumés d'enrichissement illicite sur lesquels il a commencé à être interrogé par un tribunal chargé de le juger, en même temps que 10 autres personnalités, Claire Morin-Gibourg.
Ces accusations sont sans fondement et vous n'avez aucune preuve de tout cela, a dit Mohamed Ould Abdelaziz, qui a dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019. Âgé de 66 ans, M. Aziz est jugé depuis le 25 janvier par un tribunal à Nouakchott pour avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une fortune immense. Il répond avec d'anciens ministres et hommes d'affaires, des chefs d'enrichissement illicite, abus de fonction ou encore blanchiment. Il a toujours clamé son innocence et a maintenu cette ligne de défense quand la Cour a repris ses audiences jeudi, après plus de 2 semaines de suspension. « Je suis victime d'un complot de la part de ceux que j'ai combattus pendant ma présidence », a-t-il déclaré. Monsieur Aziz a de nouveau invoqué la Constitution qui, selon lui, interdit de juger un président pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions.
De nouvelles tueries attribuées aux ADF, rebelles affiliés au groupe État islamique, ont fait les 2 et 3 avril plus de 30 morts en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a déploré l'ONU jeudi. Ces tueries seraient survenues les 2 et 3 avril à la frontière entre le territoire de Mambasa et celui d'Irumu. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, condamne avec la plus grande fermeté ces nouveaux massacres et déplore ces attaques ignobles contre la population civile, indique le communiqué. Elle exhorte les autorités congolaises à diligenter une enquête et à traduire en justice les auteurs de ces exécutions sommaires.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël a attaqué vendredi avant l'aube le sud du Liban et Gaza, disant viser des cibles du Hamas en représailles au tir de plusieurs dizaines de roquettes contre son territoire. C'est la première fois qu'Israël confirme avoir attaqué le territoire libanais depuis avril 2022. Ces frappes sont le dernier épisode en date d'une brusque montée de tensions au Proche-Orient depuis mercredi, après une accalmie toute relative du conflit israélo-palestinien observé depuis le début du Ramadan le 23 mars. Jeudi jour de la Pâque juive, une trentaine de roquettes avaient été tirées du Liban vers Israël, blessant une personne et causant des dégâts matériels dans une escalade sur le front israélo-libanais sans équivalent depuis 2006. Ces tirs ont eu lieu au lendemain de l'éruption violente de la police israélienne dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam, afin d'en déloger des Palestiniens qui s'y étaient barricadés. Une mission privée comprenant 2 astronautes saoudiens, dont pour la première fois une femme saoudienne, va décoller le 8 mai de Floride à destination de la Station spatiale internationale, ont annoncé hier Axiom Space et la NASA. Lionel Gahima.
Rayana Barnawi, chercheuse qui travaille sur le cancer du sein, va devenir la première femme saoudienne à se rendre dans l'espace. Elle sera accompagnée par Ali Al-Karni, un pilote de chasse. À bord se trouveront également Peggy Whitson, une ancienne astronaute qui s'est déjà rendue 3 fois dans l'ISS, et John Schaffner, entrepreneur américain, qui sera le pilote. Cette mission devrait décoller à bord d'une fusée SpaceX le 8 mai depuis le Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, pour atteindre la Station spatiale internationale où ils passeront 10 jours. Ce voyage dans l'espace avec une femme saoudienne s'inscrit dans la stratégie du royaume ultra-conservateur pour améliorer son image. En 1985, le prince saoudien Sultan Ben Salman avait participé à une mission américaine. Les Émirats arabes unis ont eux aussi participé à des missions spatiales. Le mois dernier, l'astronaute émirati Sultan El Nayadi a rejoint la Station spatiale internationale pour un séjour de 6 mois.
Ici aux États-Unis, 2 des 3 élus démocrates du Tennessee qui avaient manifesté il y a une semaine pour un meilleur encadrement des armes à feu après une tuerie dans une école ont été exclus jeudi de la Chambre des représentants de cet État à majorité républicaine. Une telle mesure est extrêmement rare aux États-Unis. Le Parlement du Tennessee n'avait exclu jusque-là, au cours de son histoire moderne, que deux élus en 1980 et 2016. Justin Jones et Justin Pearson, deux jeunes noirs, avaient rejoint le 30 mars des centaines de manifestants dans l'enceinte du Parlement, réclamant une régulation plus stricte des armes à feu quelques jours après une tuerie dans une école chrétienne de Nashville, la capitale de cet État du Sud, au cours de laquelle six personnes ont perdu la vie, dont trois enfants. Gloria Johnson, la troisième élue démocrate menacée d'expulsion, est parvenue à garder son siège de justesse d'une voix seulement. La Minute Éco, Nathalie Barre.
En République démocratique du Congo, Ivanhoe Mines a annoncé une production de plus de 93 000 tonnes de concentré de cuivre à Kamwa-Kakula au premier trimestre 2023, avec un record de près de 35 000 tonnes pour le mois de mars. La production devrait augmenter grâce à une autre usine de traitement ouverte en février. La mine pourrait disposer d'une capacité de production de 450 000 tonnes de cuivre annuellement. Au Togo, le programme de suivi des ouvrages de forage et indicateurs pour l'eau a permis depuis 2019 de connecter à sa plateforme plus de 9000 forages publics dans 366 cantons. Le dispositif Sophie pour améliorer l'accès à l'eau en milieu rural permet un approvisionnement continu en eau potable en utilisant le digital pour signaler les pannes sur les forages. L'Espagne va mobiliser 2,1 milliards d'euros pour des projets dans le cadre de la transition énergétique et de l'eau en Afrique du Sud. Des participations de 30% devraient être attribuées à des entreprises espagnoles. Cette initiative répond aux objectifs du partenariat pour une transition énergétique juste conclu en 2021 lors de la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques entre l'Afrique du Sud et des partenaires financiers tels que les États-Unis et l'Union européenne.
Merci Nathalie. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La CAF désignera bientôt les pays hôtes de la CAN 2025.
La CAF annoncera les nations retenues pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la Coupe d'Afrique des Nations 2027 en même temps avant le mois de septembre de cette année. C'est ce qui ressort d'un communiqué de l'instance africaine du ballon rond. La Confédération africaine de football explique qu'elle a décidé d'ouvrir la candidature pour l'organisation de la CAN 2027 en raison des demandes de nombreuses associations membres et de leur gouvernement pour accueillir la compétition. Les choix ne se feront donc pas lors de son assemblée générale prévue le 13 juillet à Cotonou au Bénin. Rappelons que le duo Nigeria-Bénin, le Maroc, l'Algérie et la Zambie sont candidats pour l'édition 2025. Aucune candidature n'a encore été annoncée pour la CAN 2027.
En Angleterre, Chelsea nomme Frank Lampard pour la fin de la saison.
Le club anglais a annoncé que son ancien joueur et entraîneur Frank Lampard sera chargé de diriger l'équipe londonienne jusqu'à la fin de la saison. Le temps pour sa direction de trouver une solution pérenne après le fiasco Graham Potter, joueur emblématique du club de 2001 à 2014, puis son entraîneur de juillet 2019 à janvier 2021. Lampard est le troisième coach des Blues cette saison. Les nouveaux propriétaires américains ont limogé Thomas Tuchel en août dernier. Après 7 matchs seulement pour être remplacé par Graham Potter, ce dernier a été limogé dimanche, laissant le club à la 11e place en championnat, même s'il est encore en course en quart de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid.
Une partie de la tribune de la Juve fermée, un match à cause de cris racistes.
C'est la sanction infligée à la Juventus Turin par la Ligue italienne de Serie A, 2 jours après les cris racistes de Tifosi Bianconeri envers l'attaquant de l'Inter Milan Romelu Lukaku. L'international belge a été la cible d'insultes racistes au moment d'égaliser sur pénalty dans les dernières minutes de la demi-finale aller de la Coupe d'Italie contre la Juventus, soldée 1-0 mardi à Turin, selon plusieurs vidéos. La Serie A a indiqué dans un communiqué que l'anneau inférieur de la tribune sud de l'Allianz Stadium serait fermé pour un match à la suite des chants racistes proférés par la majorité des supporters de ce secteur. Lukaku avait été exclu pour un deuxième avertissement après avoir célébré son but face à la tribune des supporters turinois, le doigt sur la bouche, Son carton rouge a été confirmé et il sera donc suspendu lors du prochain match de l'Inter.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Dernière minute, la FINUL, force intérimaire des Nations Unies déployée dans le sud du Liban pour faire tampon entre les deux pays, assure, après des contacts entre les deux parties, que le Liban et Israël ne veulent pas de guerre. Et l'armée libanaise a annoncé ce vendredi avoir démantelé dans le sud du pays une nouvelle rampe de lancement de roquettes susceptibles d'être tirées sur Israël. Passons maintenant à nos dossiers du jour. Mercredi, un avion des forces armées maliennes qui a survolé Kidal a essayé des tirs de sommation à l'arme lourde. Par la coordination des mouvements de l'Azawad, le groupe rebelle Touareg, qui a signé un accord de paix avec Bamako depuis 2015, accord dont l'application traîne, y voit un acte de provocation de la part des autorités maliennes. Modibo Dambélé a joint à Bamako l'analyste politique et responsable du cabinet Kersi Consulting, Amadou Sissoko.
La réaction de la CIMA se situe un peu dans la continuité du développement du dossier de l'accord de paix. À mon sens, le statu quo n'est plus tenable, ni pour la partie malienne, ni pour la CIMA.
Quelle a été la réaction du gouvernement malien?
Non, le gouvernement malien n'a pas fait de réaction particulière parce que le Mali considère que son espace aérien est total et entier sur son territoire. Donc, qu'un avion survole l'espace aérien de l'État dépositaire de l'appareil ne doit pas a priori poser de problème. Maintenant, si dans le contexte la partie CIMA réagit, bon, le gouvernement ne fait que clarifier qu'il n'y avait pas d'attaque, qu'il n'y a rien, que c'est un exercice normal des aéronefs militaires et qui quadrille le territoire du pays.
Qu'est-ce que cela démontre par rapport au statut même de l'accord de paix d'Algérie, dont l'application traîne depuis des années?
J'ai toujours pensé, et je l'ai écrit dans des articles de presse, des coupures de presse, j'ai toujours pensé que l'accord de paix n'est pas un accord malien, ni pour la CIMA, ni pour la partie gouvernementale. C'est d'autres qui ont taillé des dispositifs sur mesure et qui nous ont fait adhérer. La CIMA, comme nous perdons dans cet accord-là, parce que chacun a juste géré le temps, la montre, le chrono, pour essayer d'obtenir un peu ces désidratas. Mais tout le monde savait très bien que ces dispositifs-là n'étaient pas applicables. Donc aujourd'hui, le problème, il reste entier. Et le rapport de force entre-temps a évolué en faveur de l'État malien. Donc il appartient aussi à la CIMA d'intégrer l'évolution du rapport de force.
Suite à cette réaction de la CIMA, quel est finalement le statut de Kidal? Et qu'est-ce qu'il faut pour que les deux parties puissent s'entendre sur ce dossier?
Il faut que Kidal rentre dans le giron de l'État malien. Maintenant, au-delà de ça, effectivement, un certain nombre d'arrangements peuvent être concédés au développement, à la prise en charge de la spécificité climatique et autres de Kidal, de Verkaï, de façon plus générale.
C'était Amadou Sissoko, analyste politique et responsable du cabinet Kersi Consulting.
Branché 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
En Côte d'Ivoire, les responsables du quotidien ivoirien Le Temps, proche de l'ancien président Laurent Gbagbo, ne décollèrent pas après la suspension de leur tabloïd pour 6 parutions accusées d'avoir porté atteinte au corps judiciaire selon l'autorité de régulation. Jean-Roger Bion a joint à Abidjan son directeur de publication Yacouba Bané, lui-même suspendu d'écriture pour 3 mois.
Je suis en colère parce que cette décision, elle est injuste est injustifiée. J'ai pitié pour mon pays. C'est un acte de sabotage. C'est un acte de nous réduire au silence. Elle ne veut pas nous taire. Cette décision est inacceptable. Elle est injuste et injustifiée.
On vous reproche quand même d'avoir porté atteinte à l'honorabilité d'une magistrate.
En quoi avoir publié, avoir fait un article sur une magistrate, c'est une atteinte à l'honorabilité d'un magistrat? Qu'on publie les photos d'un politicien, qu'on publie les photos des joueurs, qu'on publie les photos des artistes, est-ce que c'est une atteinte à leur honorabilité? La juge de la première chambre de la CPI, quand elle devait juger le président Laurent Gbagbo, on a dit qui est la juge argentine. Quand c'est passé dans les mains de l'Italien Kino Tafisseur, on a dit qui est le juge italien. Quand c'est passé dans la main du Nigérian, on a dit qui est le juge nigérian. Voilà. En Europe, on peut dire voici le juge qui va juger tant. Voici le juge, qui est le juge tant. Voilà. Ou bien quand il y a un match de football, on dit Côte d'Ivoire-Burkina. Qui est l'arbitre du match Côte d'Ivoire-Burkina? On présente. Quand vous jugez l'article, nulle part on l'a insulté, nulle part on l'a exposé à la vérité populaire. Mais si on dit qu'on l'a exposé à la vérité populaire, et moi, Badé, comme il dit, on fait un communiqué, Yacouba Badé, si c'est pourquoi on ne m'expose pas. Celui qui ne veut pas qu'on le critique, celui qui ne veut pas qu'on lui parle, mais qui se met dans les noirs? Nulle part nous avons écorché la dame. Notre intention, ce n'est pas de l'exposer. Nous n'avons pas fait. Parce que si c'est ça, aucun journal ne va sortir. Aucune image ne va sortir dans les télévisions parce que chaque fois, on montre les politiciens, on montre les sportifs. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que nous avons demandé aux gouvernements, à ces gens, à ces personnes, pour mettre leurs photos dans nos journaux ou bien pour mettre leurs images au niveau de la télévision? On a demandé leur autorisation.
Quel recours entendez-vous suivre?
Nous ne ferons aucun recours. Faire un recours, c'est pour faire plaisir à l'ANP. Au lieu de jouer son rôle de régulateur, jouer un rôle de sanction. Nous. Notre seule arme, c'est notre plume. Nous, nous avons le verbe. Nous, nous avons la parole. Tant que Dieu nous donnera ce souffle, nous continuerons à dénoncer ce qui ne va pas dans la Côte d'Ivoire.
Vous souhaitez demeurer donc dans l'illégalité si vous continuez à paraître?
Non, on ne va pas paraître. Nous sommes des légalistes. On va respecter la loi. On va respecter la décision. Mais nous ne ferons aucun recours. Que l'AMP ait du respect pour nous. Si on les respecte, qui nous respecte? Qui se respecte eux-mêmes?
Yacouba Badin, directeur de publication du quotidien ivoirien Le Temps.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Zimbabwe, certains des fonctionnaires accusés de contrebande d'or et de blanchiment d'argent dans le documentaire Gold Mafia de la chaîne Al Jazeera on salue le projet du gouvernement d'enquêter sur ces allégations. Mais les critiques doutent de la capacité du gouvernement à réprimer la corruption interne. Un reportage de Columbus Mavunga à Harare, la capitale du Zimbabwe. Le récit est de Thierry Kaoré.
En mars 2023, la chaîne Al Jazeera a diffusé un documentaire d'investigation intitulé « Gold Mafia » qui établit un lien entre le commerce illégal de l'or et la corruption, d'une part, et de puissantes personnalités au Zimbabwe, d'autre part. L'homme d'affaires, Simon Rodland, est propriétaire d'une société de tabac. Le documentaire l'accuse d'avoir prêté des millions de dollars à la Banque de réserve du Zimbabwe pour acheter de l'or en vue de le ressortir clandestinement du pays. Rudland qualifie le documentaire d'Al Jazeera d'extrêmement sensationnel, estimant qu'il fait de nombreuses affirmations sans aucun élément de contexte ou de preuve. Cependant, l'homme d'affaires a déclaré à la VOA qu'il accueille favorablement les enquêtes du gouvernement sur les assertions du documentaire. Mais un responsable financier d'une école publique qui a demandé à ne pas être identifié par crainte pour sa sécurité affirme avoir fourni des preuves de corruption aux autorités au cours des trois dernières années. Il ne croit pas qu'il arrivera quoi que ce soit à la mafia de l'or.
Je ne pense pas qu'ils agiront sur cette question de la corruption, car le nombre de fois où, en dehors de la fourniture des documents physiques, j'ai eu des appels et ils semblaient avoir oublié la question et qui appelle à quel sujet.
La commission anticorruption du Zimbabwe a refusé la demande d'interview concernant les accusations du documentaire Gold Mafia. Mais après sa sortie, la ministre de l'Information du Zimbabwe, Monica Mutswangwa, a fait savoir que le gouvernement allait prendre des mesures.
Le gouvernement saisit cette occasion pour réaffirmer son engagement à respecter les lois locales et internationales, y compris les lois relatives aux transactions financières, au commerce de l'or et d'autres minéraux précieux de notre pays.
Toutefois, le leader de l'opposition et ancien ministre zimbabwéen des Finances, Tendai Biti, n'est pas de cet avis.
La commission anticorruption du Zimbabwe a dépensé des millions, environ 33 millions de dollars rien que l'année dernière contre la corruption, mais il n'y a pas de poursuite ni d'enquête. Nous ne croyons donc pas que quelque chose puisse se produire, mais au moins nous saluons l'engagement formel de s'attaquer à la corruption.
Le gouvernement zimbabwéen a longtemps été accusé d'ignorer la corruption associée aux hauts fonctionnaires du parti au pouvoir, le ZANU-PF. Pour les critiques, cela explique le marasme dans lequel est plongée l'économie du pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
La Chine a envoyé des navires de guerre autour de Taïwan à la suite de la rencontre de mercredi en Californie entre le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy et la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen. Cette réunion a eu lieu alors que les tensions sont croissantes entre les États-Unis et la Chine. Le point avec Mike Sullivan, récit de Claire Morin-Gibourg.
Accompagné d'une douzaine de membres du Congrès, Kevin McCarthy, président de la Chambre des représentants, s'est rendu à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan, en banlieue de Los Angeles, pour une rencontre avec la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen. Monsieur McCarthy a promis d'être aux côtés de Taïwan pour soutenir la démocratie, la liberté économique, la stabilité et la paix en Asie.
Aujourd'hui, une réunion bipartite réunissant républicains et démocrates s'est tenue dans un lieu qui symbolise la liberté, l'engagement et le lien qui ne fait que se renforcer.
Les partisans de Taïwan avaient envahi le hall de l'hôtel de la présidente Tsai et les partisans de la Chine se sont rassemblés à l'extérieur. La visite n'était pas officielle, décrite comme une étape de transit après la visite de la dirigeante taïwanaise en Amérique centrale. L'analyste chinoise Patricia Kim de la Brookings Institution a déclaré que cette rencontre était une réponse aux agressions chinoises sur plusieurs fronts.
Non seulement dans le domaine militaire, mais aussi dans les domaines économiques, diplomatiques, il y a eu une plus grande pression et un plus grand désir de la part des dirigeants américains de faire plus pour contrer l'agression de la Chine dans le détroit de Taïwan et d'accroître le soutien à Taïwan.
Madame Tsai s'est dit réconfortée.
Le soutien impressionnant et indéfectible rassure le peuple taïwanais sur le fait que nous ne sommes pas isolés.
Les responsables chinois qualifient cette réunion de provocation. La Chine avait critiqué la visite l'an dernier à Taïwan de Nancy Pelosi, l'ancienne présidente démocrate de la Chambre. En réponse, la Chine a mené des exercices militaires d'envergure au large de Taïwan. De nouveau, l'analyste Patricia Kim.
Les experts s'attendent à ce que la réponse de Pékin cette fois-ci ne soit pas aussi extrême que l'été dernier lorsqu'elle s'est engagée dans des exercices de tir réels autour de l'île après la visite de la présidente Pelosi. Il reste donc à voir à quel point sa réaction sera extrême cette fois-ci et je pense que cela pourrait dépendre en partie de la façon dont la réunion de Californie est décrite dans les médias.
Madame Kim précise que Pékin pourrait également modérer sa réponse parce que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président français Emmanuel Macron et l'ancien président taïwanais, Man Jingyewu, sont tous en visite en Chine qui cherchent à se présenter comme une puissance mondiale modérée. Dans le même temps, M. McCarthy et d'autres législateurs américains rassurent Taïwan sur le fait que le pays a des amis à Washington.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sédoudia au micro, à la mise en onde de Firmin Koyaweda, À la console Bob Bass, rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.